Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
Notre invité du jour, j'ai envie de le dire, c'est un peu une légende, un footballeur passé par Monaco, le PSG, l'équipe de France. Bon, il a aussi connu Caen, Troyes et Bastia. Ça, c'est pour faire dégonfler un peu son melon surdimensionné, comme l'ont qualifié ses collègues Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Mais c'est ce qui fait aussi son charme, véritable pourvoyeur de caviar pour ses coéquipiers. Je parle de passes décisives ici et pas des œufs d'esturgeon. Il en compte un peu plus d'une centaine dans sa carrière, un fait d'armes dont il ne manque jamais de se glorifier à la retraite sportive depuis 2014. Il s'est reconverti dans le journalisme sportif Canal+, Bein Sport, avant de rejoindre la grande maison RMC, entouré d'une dream team de journalistes et de consultants prestigieux, c'est-à-dire à son niveau. Il s'éclate et il régale, et même désormais, il s'enflamme. Bonjour Jérôme Rotten.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir, ancien footballeur professionnel. Je l'ai dit, vous vous êtes rapidement reconverti dans le journalisme sportif après votre carrière au sein du groupe Next. Vous êtes intervenu dans Team Dugas, ensuite dans l'After Foot, avant d'écrocher votre propre émission Rotten Régal, c'était en hebdomadaire, et depuis 2021, vous co-animez votre propre émission avec Jean-Louis Tour. Rotten sans flamme, c'est du lundi au vendredi, hein. Là c'est en quotidien, ça rigole plus, 18h, 20h sur RMC. Quand on a un ego un peu surdimensionné comme le vôtre, Jérôme, est-ce que c'est facile de partager la vedette avec un simple mortel comme Jean-Louis Tour?
Ouais, Jean-Louis est en retrait, hein, de toute façon. Ouais,
bien sûr, ouais. Donc, ouais, j'attends pas moins de vous.
Non, mais oui, mais l'ego un peu plus important que certains, oui, je l'assume dans tous les cas. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la rançon de la gloire des sportifs de haut niveau, quel que soit le sport de toute façon. Je pense que quand on a atteint un certain niveau, qu'on arrive dans notre sport à...
On prend automatiquement le melon, c'est ce que vous voulez dire un peu ?
En fait, moi, je pars du principe...
Il y en a qui ne l'assument pas et qui restent qu'à vous, oui. C'est
clair. Non, mais ce n'est pas une question d'avoir le melon, parce que je pense très honnêtement que je sais d'où je viens, ouais. Comment j'ai bossé pour y arriver. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans ma vie et dans ma carrière, dans ma jeune carrière, qui ont fait que j'étais obligé d'être dans ma bulle, de me construire par moments quasiment seul.
Parce même, oui. Des facile. Moments, c'était difficile, oui. Ouais.
Et que ces moments difficiles de mon jeune âge ont fait que, quand j'ai réussi, oui, j'ai confiance et j'ai confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en moi, mais à côté de ça, attention, je me remets souvent en question. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce n'est pas un melon comme
certains
présentent.
Bien sûr, on en plaisante.
Bien sûr, mais vraiment, c'est...
Cette petite pointe d'arrogance, vous l'assumez. Vos collègues, ils s'y sont faits, ça y est. Ils ont admis votre supériorité définitivement.
Bien sûr, c'est obligé. Non, c'est la rançon de la gloire. Mais... je plaisante. Mais... Non. Mais en fait, je suis à côté de ça. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, me passer de la pommade. Mais très honnêtement, je me remets en question tout le temps parce que... Si vous ne vous remettez pas en question, et là, c'est, vous l'avez bien dit, sûr. Tous les jours, ouais. Je pense qu'on ne peut pas progresser déjà, parce que je ne connais pas tout, et encore moins dans ce milieu-là, des médias, où je découvre, même si ça fait quelques années.
Absolument.
Donc, il faut se remettre en question.
Et vous apprenez vite, hein, on va le voir, évidemment. On poursuit cette conversation avec Jérôme Rotten. Dans quelques instants, on va parler de sa nouvelle vie de consultant. On va débriefer, bien sûr, l'actualité du foot, qui est très riche en ce moment. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah.
Bonjour Nicolas et bonjour Jérôme. Ouais,
bienvenue
ça va bien.
Dans le monde du foot. Ça, ravi qu'on se fait un buzz sur le foot avec vous. On démarre ces news médias avec un cocorico, un vrai, hein, celui-là, un triomphe français sur Netflix.
Ah oui, on peut parler de carton. Hein. Ah oui. C'est comme ça qu'on peut qualifier la carrière de la série française Les Combattantes, alors diffusée en octobre dernier sur La Une. La série portée par Audrey Fleurot, Julie de Bona ou encore Camille Leloup avait déjà passionné les téléspectateurs. Hein, plus de 5,5 millions de curieux chaque semaine qui étaient rassemblés sur TF1. Mais depuis que la série est en ligne sur Netflix, c'est carrément l'explosion. plus de 50 millions d'heures de visionnage en 10 jours. Oui, les combattantes s'est même installée dans le top 10 mondial et classée 7e aux États-Unis, ce qui est assez rare quand même pour être souligné.
Oui, ils n'aiment pas trop le ciré étranger en général. Les Américains, dès que ça ne parle pas l'anglais, ils n'aiment pas. Jérôme, je sais, vous regardez évidemment beaucoup de foot, beaucoup de matchs et vous êtes obligé, mais est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps notamment pour le reste de la télé, on va dire classique, ou les plateformes aujourd'hui, type Netflix, Amazon, Disney+. Oui. Vous êtes un fan de séries, vous pouvez regarder comme ça beaucoup ou...
Séries, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive très souvent. Je pense que la période Covid a aidé dans
sur les plateformes.
Là,
donc, en général, vous faites ça.
Beaucoup de plateformes sur Netflix très souvent, mais pas que, parce qu'il peut y avoir. Des séries intéressantes sur le groupe Canal+, par exemple.
Oui, sur MyCanal, bien sûr.
Ça m'arrive.
Qu'est-ce que vous avez aimé récemment? Il y en a que vous avez
Fauda.
Vu
Fauda.
Magnifique.
J'attendais absolument cette quatrième saison.
Mm. Avec Laura Smet, d'ailleurs.
Exactement.
Ouais.
Qui est dedans et qui est excellente. Mm. J'ai trouvé excellente, vraiment. On reste sur notre fin parce qu'elle est déjà finie, la série. Moi, je l'ai déjà mangée. Donc, j'attends d'avoir la cinquième. Mais apparemment, elle n'est pas encore lancée.
Non,
donc,
pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Voilà. On continue ces infos médias, Sarah, avec le chiffre du jour très précis, 17,9.
Oui, il s'agit de la part d'audience de TF1 dans le résultat mensuel des audiences des chaînes en janvier, calculé par Médiamétrie. C'est la une qui reste en tête. Malgré une baisse par rapport à décembre de 3% environ, forcément, sans la Coupe du Monde, ça baisse un peu.
Décembre, il y avait
évidemment.
Ça les a bien aidés.
Derrière TF1, on retrouve France 2 avec 15% de part d'audience, puis France 3 et M6 qui baissent toutes les deux. Ouais. France 5 complète le top 5 devant C8. Et enfin, parmi les chaînes info, alors BFM TV reste leader devant CNews et LCI qui, franchement, fait une belle percée. Depuis quelques mois maintenant.
Absolument. Jérôme, on parlait des audiences qui ont été excellentes, là d'ailleurs sur TF1 et sur BeIN pendant la Coupe du Monde. On se souvient des appels au boycott de 70% des Français dans le sondage qui disaient on va pas suivre ça, etc. Ça n'a pas du tout été suivi. Ça vous a surpris ou pas ça vous a pas surpris qu'il y ait des audiences comme ça alors que beaucoup de gens disaient on va pas regarder le Qatar.
Oui, comme quoi, il y a eu beaucoup de polémiques. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, c'était tous les jours dans mon émission. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre de parler toujours en négatif de l'événement planétaire sportif. Donc, moi, j'étais persuadé que les gens allaient s'intéresser. C'est une Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde...
C'est que tous les 4 ans,
et en plus de ça,
l'équipe
de France va au bout. Donc, avec des scénarios un petit peu de malade aussi.
Je ne parle même pas de la finale, mais
c'est vrai que ça a été fantastique. Donc, je ne suis pas surpris des excellentes audiences. En plus, ça va forcément avec ce qu'on a pu vivre sur place là-bas.
Vous y étiez, apparemment, tout s'est bien passé. C'était beaucoup de bruit pour rien, le Qatar, ou pas, pour vous, je pense, tout ce qui s'est passé.
Je pense que
on ne peut pas occulter tout ce qui a eu, évidemment.
Exactement, c'est pour ça, on ne peut pas occulter plein de débats et de polémiques qu'on a pu mettre en avant avant la Coupe du Monde. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que déjà, je trouve que les Qataris ont fait beaucoup d'efforts sur cette Coupe du Monde, qu'il n'y a pas eu de restrictions. Moi, j'ai passé plus d'un mois, donc je suis bien placé. Et puis, je suis allé partout. Donc, j'ai vu, c'était très bien organisé. La sécurité au top, propre. Les stades magnifiques, les pelouses fantastiques. L'ambiance dans les stades, ça a été embelli par...
Pas toujours plein, les stades.
Par la Coupe du Monde de l'Argentine, forcément, elle a gagné. Le Brésil, le Mexique... Même l'Arabie Saoudite a ramené beaucoup de personnes et on fait des ambiances fantastiques. Donc, c'est une Coupe du Monde très, très, très réussie, vraiment.
Sur Rotten, je l'ai dit, vous animez tous les jours votre émission Rotten sans flamme, 18h-20h, c'est sur RMC et en podcast, évidemment. Je sais que les podcasts marchent très bien. Ma première question, elle est assez simple. Quand on a joué comme vous au niveau, qu'on a fait une finale de Ligue des Champions avec Monaco, qu'on a joué au PSG, qu'on a joué en équipe de France, est-ce que RMC, quand on arrive là, c'est un peu la Ligue des Champions, on va dire, du journaliste sportif?
Pour moi, c'était un aboutissement d'arriver à RMC avec mon émission. Je l'ai toujours dit, quand j'ai commencé dans les médias, je savais à la fin de ma carrière que c'est un rôle qui m'intéressait.
Et quand vous étiez joueur aussi, vous le saviez?
Oui, parce que j'ai toujours été un bon client, comme on dit.
Oui, c'est vrai, dans les interviews.
J'ai jamais fait semblant.
Jamais de langue de bois, toujours
alors,
très
cash. Des fois, on me le reprochait, mais ce n'est pas grave, j'assume, c'est mon caractère, mais... Ça m'a forcément ouvert des portes pour bosser dans les médias. Il ne faut pas se voiler la face.
Ouais.
Ce qui m'interpelle le plus, c'est quand je vois certains qui aujourd'hui bossent dans les médias, donc sont consultants comme moi, et qu'ils fermaient la porte à ces médias quand ils étaient joueurs.
Ouais.
Mais vraiment, violemment, à double tour.
Ouais.
Donc,
vous pensez à quelqu'un en particulier?
Il y en a, et ça représente quasiment les trois quarts des consultants.
Ouais.
Toute façon, ça va aujourd'hui avec ce que je pense du consultant en France, parce qu'il y en a des très, très bons à l'étranger. Il y en a aussi en France des bons, mais pas assez. Mmh. Pas assez, parce que moi, je mets ça en avant, c'est il faut dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir les mains liées.
Le côté grande gueule, c'est ça. C'est pour ça que ça a matché avec RMC,
ouais.
Parce que vous êtes passé, vous avez démarré à Canal, à Bein aussi un peu, et vite sur RMC. Ça correspond plus à votre tempérament, RMC, que ces chaînes-là?
Franchement, Canal, je me suis éclaté quand j'ai commencé à Canal, parce que pour Canal, c'était l'endroit où il fallait être pour regarder.
Bien sûr, c'est aussi une Ligue des Champions pour Journée Sportive. Mais c'est un peu plus policé, Canal.
Oui, non, mais après, attention, moi j'ai fait des émissions à Canal, on m'a jamais dit, attention, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Donc. J'étais assez libre de faire ce que je...
Vous n'êtes jamais censuré?
Non, pas du tout. Et Bein, je vous dis, je me suis éclaté parce que j'avais un autre rôle.
Ouais.
Je n'étais pas animateur d'une émission radio, même télé. Je commentais, on débriefait. Là, on parlait de foot, de terrain, et c'est ce qui m'intéressait. Et Bein, je me suis éclaté. Mais je ne pouvais pas faire les deux parce qu'à l'époque, RMC, rappelez-vous, quand je suis parti de Bein, il y avait la télé aussi, il y a la télé qui se développait, et donc on était…
RMC, vous aviez à ce moment-là les droits, notamment
exactement,
de la Ligue des Champions.
Donc on était à 100% sur RMC, je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai décidé de partir dans cette aventure-là,
plutôt pour RMC.
Et je ne le regrette pas.
On se souvient de vos débats enflammés, moi j'ai écouté ça des soirs entiers de vous et Daniel Riolo dans l'Afterfoot, avec Gilbert Bribois qui essayait de vous calmer parfois tous les deux.
Encore des cernes.
Pourquoi vous l'aviez quitté cette émission, parce que ça marchait très bien? Vous vouliez avoir la vôtre, ou c'est comme ça, on vous l'a proposé, Jérôme, c'est vous qui aviez demandé avoir votre émission?
Je ne me suis jamais caché que, pour moi, l'after était un tremplin.
Ouais.
Je me suis éclaté. Je suis persuadé que Gilbert et Daniel m'ont apporté des choses d'un côté médiatique important.
Ouais, vous en avez appris des choses.
À apprendre.
Ouais.
Ouais. Après, ma connaissance du foot, ce n'est pas une critique sur eux, mais non. J'ai mon avis sur le football et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans, avec eux, avec Gilbert et Daniel, quasiment tous les soirs, il me semblait que j'avais fait le tour.
Il y avait des frictions ou pas?
Oui, il y en a eu. Avec Daniel Riolo, bien sûr qu'il y a eu des frictions.
En coulisses, des
parfois
vrais.
Parfois hors antenne, quand c'était fini, ça continuait.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'antenne, comme ça, en direct, il peut y avoir un jeu. Mais moi, j'ai jamais pris mon métier aujourd'hui pour un jeu. Je dis ce que je pense. C'est vrai que Daniel aussi a son tempérament. Il lâche pas. Il est très hargneux. Donc par moments, il y a eu des grosses frictions, mais ce n'était pas calculé du tout. Et ces frictions-là, quand vous les avez à l'antenne, forcément, il y a des restes après les émissions. Donc, il faut le temps de digérer. Mais je ne vous cache pas qu'au bout de 5 ans, j'avais du mal à digérer certaines choses. Donc,
et vous avez eu besoin pour votre ego d'avoir aussi votre émission avec votre nom?
Non, mais c'est vrai. Non, mais
ça a satisfait votre ego, d'avoir une émission qui porte son nom.
Exactement.
Et tout.
J'ai adoré ce qu'a fait Luis Fernandez avant moi à RMC. Il est resté 13 ans quand même avec Luis Attac. J'ai adoré ce qu'a fait Christophe Dugarry dans la continuité. Et j'y ai participé par moments à Team Duga aussi. Donc, j'ai vu ce qu'il mettait en place. Je voulais avoir... mon émission pour décider des thèmes, pour lancer. C'est un autre rôle, attention. Hein, là, je ne suis plus juste consultant, je suis animateur. Donc, il faut…
Avec Jean-Louis Tour, effectivement, qui le
fait. Il y a
des
codes à apprendre pour lancer après
ouais,
les pubs, avant les pubs et tout ça. Donc, ce n'est pas facile.
Je vous écoute et vous progressez, d'ailleurs, c'est vrai.
J'espère.
Par rapport à il y a un an, vous avez bien progressé dans les lancements de pubs.
Mais je vais vous dire, déjà, c'est gentil, c'est flatteur pour moi. Mais je le ressens parce que je ne suis pas le genre… Même si on a l'impression que je me réécoute tout le temps. Non, pas du tout, je ne me réécoute pas. Mais c'est vrai que c'est bien dans la progression de se rendre compte qu'il y a un an, les lancements étaient faits comme ça. Et aujourd'hui, c'est un peu plus fluide quand même.
Ça vient d'où cette réputation, d'ailleurs, de melon que vous avez, qu'on vous prête?
Parce que j'ai souvent, dans mes analyses, la comparaison avec ce que j'ai vécu sur le terrain ou ce que j'ai pu faire par moment. Alors, en bien ou en moins bien. En moins bien, j'essaye de le mettre de côté. Mais en bien, et donc forcément, on a ce côté où
moi
on peut avoir être le donneur
moi
de leçons. Moi, je pars du principe.
Mais vous en jouez un peu, Jérôme, ou pas, quand même?
J'en joue, oui.
J'en joue. Parce que c'est un peu la marque de fabrique. Alors après, Gilbert.
J'en joue après. Il y a
Gilbert Béouet d'Ariolo avait qualifié ce concept de melon sympa. Ouais. C'est ce qu'ils avaient dit, qui fait aussi votre charme, etc. Vous validez,
oui.
J'imagine.
Bah, ouais. Melon sympa, oui. Ouais. Je valide parce que sympa, pourquoi? Parce que c'est mon éducation, et ça, je le dois à mes parents, ouais. À ma formation aussi à l'INF Clairefontaine, où on vous apprend dès votre plus jeune âge, et mes parents surtout. À respecter
le
tout
respect,
le monde. Ouais. Oui, le respect, c'est l'essentiel d'arriver dans une salle, même si vous ne connaissez pas, vous dites bonjour, vous parlez à tout le monde, je suis très ouvert là-dessus, et en privé, après, à l'antenne, oui, bah, y a une carapace, la fameuse bulle que j'avais pendant ma carrière qui se remet peut-être en place.
Et vous le faites très naturellement, d'ailleurs. Hein.
Mais je le fais naturellement, ouais, ouais. Mais ça m'éclate. Ouais, ouais. Ça m'éclate. Et puis en plus, j'ai ce côté en moi où je... J'aime le chambrage. Pour moi, ça fait partie du football.
Ça fait partie du foot.
Alors après, attention, on ne sait pas sur qui on tombe. Et,
mmh. Oui.
et par moments, les gens ne comprennent et oui. pas. Et c'est vrai
que c'est du chambrage.
Et ça vous est arrivé. Hein, en juin 2019, Daniel oui. Riolo oui. et vous, exactement. Vous avez été suspendu d'antenne sur RMC pendant une semaine après des propos jugés sexistes hein, sur la jeune femme qui a accusé Neymar de viol. Vous avez... présenter vos excuses, mais malgré tout, le tollé était là sur les réseaux sociaux notamment. Avec le recul, est-ce que vous avez regretté vos propos?
Oui, bah, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Même si j'ai toujours dit sur le moment, même après mes excuses ou avant mes excuses, qu'en aucun cas je jugeais l'acte. En fait,
vous parlez juste du physique de la jeune femme.
Bien sûr.
Vous ne remettiez pas en cause ces accusations.
Non, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire. C'est vrai que c'est des choses, peut-être, juger le physique d'une femme ou d'un homme, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Après, à l'antenne, c'était peut-être malvenu par rapport aux accusations qu'il y avait, ça c'est sûr, et que ça a été une erreur. Mais j'ai envie de vous dire qui ne fait pas d'erreur. En fait... La seule chose, c'est que quand vous faites une erreur comme ça, il faut s'en servir, il faut apprendre. Je ne peux pas de nouveau recommettre ce genre de conneries, parce que c'est une connerie, très honnêtement. Et on a payé pour ça. Pour autant, ça ne fait pas moi une personne
c'était
sexiste.
C'était juste la sanction était juste, selon vous, une semaine de suspension?
Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est...
La direction,
après,
ouais.
Il y en a certains... des hauts placés politiques ont demandé même notre tête.
Roxana Marissanianou.
Elle vous a comparé à des joueurs de district, d'ailleurs,
oui,
en disant
oui.
que des joueurs de district feraient mieux que vous en analyse
c'est
footballistique.
C'est possible, c'est possible. en tout cas, oui.
Moi, j'ai joué en district. Je suis plus qualifié que vous, Jérôme.
Mais comme quoi, quand vous avez la ministre des Sports qui tient un discours comme ça sur nous, vous dites que là, elle dépasse sa fonction, en fait. Ouais. Elle ne reste pas dans sa fonction. Et c'est ça qui est dommage. Je pense que si ça n'avait pas été Riolo Roten qui avait fauté sur... ça aurait fait moins de buzz. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont servis de ce buzz-là. On a fait une erreur, on a assumé. Pour ça, je vous dis la sanction, oui. Qu'on soit puni d'une certaine façon, et ça, on l'a été, hein, que ça soit au niveau de financier ou au niveau de l'antenne, ça, c'est clair, on a été puni. L'erreur est humaine. Moi, je pars du principe que ça ne fait pas de nous ou de moi une mauvaise personne, bien au contraire.
Apprend, voilà, même avec des échecs, effectivement. Vous parlez beaucoup d'actualité foot, hein, j'ai envie de vous entendre sur deux, trois sujets dont on parle beaucoup. C'est très riche hein, en ce début d'année. Alors, je vais commencer par le Gret, évidemment, qui a été mis en retrait de la présidence de la FFF, qui se retrouve accablé hein, par l'audit qui a été commandé sur son management, les plaintes pour harcèlement moral, sexuel. C'est une bonne décision, une décision normale selon vous. Il a été trop loin, Noël Le Gret.
Oui, bah on en revient un peu à mes propos sexistes de l'époque.
Oh bah là, c'est autre chose, c'est un autre niveau.
Non,
encore, là.
Non mais c'est pour rebondir là-dessus. Oui. C'est que moi, je pars du principe, et je lui ai dit, parce que je l'ai reçu dans mon émission avant la Coupe du Monde, Noël Le Gret.
L'audit était déjà en cours.
Oui, mais il y a des choses qui ont été faites alors qu'il était donc président de la Fédé, qui sont pour moi... insoutenable, du moins. Je ne comprends pas qu'on puisse cacher des harcèlements sexuels sur des jeunes, la pédophilie, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont été condamnés, qui sont partis de l'INF Clairefontaine chez les gamins. Quand il y a des éducateurs qui touchent à des gamins comme ça, et je me mettais à leur place, parce que j'y étais à leur place il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans maintenant, bah, je trouve...
Ça vous est jamais arrivé, vous?
Non, mais On a eu par moments une certaine pression, mais pas jusqu'à faire du
harcèlement sexuel,
ou autre. Mais je trouve ça incroyable. Et rien que ça, pour moi, l'erreur, elle est fatale. Ouais. Et donc, ton président de la Fédération française, il ne peut pas admettre ça. Et de mettre ça un petit peu sous la table, déjà, pour moi, c'est terrible, le message envoyé. Alors après, derrière, ça s'est accentué, bien sûr. Et aujourd'hui...
Avec Zidane, ses propos notamment qui ont
fait... Oui, après, Zidane, c'est des propos qui...
Ça vous a choqué ce qu'il a dit ?
Il y a eu pire. Non, mais il y a eu pire. Il y a eu bien pire. Là, on parle quand même d'harcèlement sexuel.
On est d'accord, bien sûr.
Donc, les propos sur Zidane, ça montre juste une chose, c'est le mépris qu'a ce monsieur-là, ou certains du COMEX, parce que c'est la même chose, ils sont tous dans le même bateau. Le mépris qu'ils peuvent avoir pour certains footballeurs. Mais et c'est ce que j'ai dit à l'antenne. J'ai dit, ces gens-là sont bien en place grâce aux footballeurs. S'il n'y avait pas de football, il n'y aurait pas de Noël Le Graët, il n'y aurait pas de COMEX, il n'y aurait pas de ceci, cela. Donc, il faut respecter le footballeur comme il doit être respecté. Et en fait, ce genre de discours, en privé ou même pas en privé, parce qu'il ne s'en cache pas, la preuve sur l'interview qu'il
c'était
a donnée
sur RMC,
Bartoli Time, montre à quel point ils sont au-dessus de tout ça. Mais non, vous n'êtes pas au-dessus des footballeurs. Allez. On doit faire razzia de tout ça et puis repartir avec des nouvelles têtes.
Je vais rebondir sur Didier Deschamps, que vous connaissez très bien, qui vous a fait venir à Monaco, qui vous a permis aussi d'exploser au plus haut niveau, ouais. Jérôme. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps devrait aussi partir ? Est-ce qu'il est trop lié à Noël Le Graët pour, c'est un vrai tandem qui avance ensemble depuis 12 ans. Sa reconduction qui a été faite un peu dans le dos de tout le monde, pas forcément dans les formes. Vous pensez qu'il devrait partir, Didier, ou au moins remettre en cause son... Ce nouveau contrat ou pas ?
Moi, sur Didier, j'ai juste le côté sportif à regarder. Il est sélectionneur, il est entraîneur de cette équipe de France.
Et il fait du bon boulot depuis 10 ans.
Il fait du très bon boulot au niveau sportif. Donc, on ne peut pas associer les deux. Il y en a un qui a fauté en termes d'image, en termes de discours à maintes reprises. Didier, non.
Après,
c'est vrai qu'il y a eu... À mon sens, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop de nouvelles de Didier, et je l'ai dit, et je ne m'en cache pas, je trouve qu'il l'a trop soutenu par moment, et qu'il aurait dû se retirer un peu, voilà, et donner un discours différent. Il a mis une semaine pour réagir aux propos sur Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, avec qui il a gagné la Coupe du Monde, avec qui il a partagé le vestiaire, c'est deux icônes du football français. Donc, on ne peut pas avoir des gens qui se déchirent comme ça, ou des gens qui critiquent autant une légende comme Zinedine Zidane, et avoir le sélectionneur de l'équipe de France qui met une semaine à réagir et qui a un petit peu botté en touche en plus quand il a réagi.
Un peu, ouais, c'est vrai.
Je peux comprendre qu'il soit proche, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France avec Noël Le Graët, qu'il soit proche, mais il ne peut pas tout accepter, tout acquiescer. Et c'est là que le rôle de Didier est un petit peu... perturbant.
Et vous êtes en froid avec Didier Deschamps depuis
En froid, je dirais pas, parce que moi, j'ai juste dit les vérités. Et encore une fois, je dis ce que je ressens, même si j'ai beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ce qu'il m'a amené, Didier Deschamps. Il m'a amené tout là-haut, au plus haut niveau. Grâce à lui, j'ai touché la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. Je suis arrivé en équipe de France, je me suis installé, je me suis fait un nom dans le football français, grâce à Didier Deschamps aussi. Ouais. Alors, pas que... Parce que il y a l'homme, le footballeur que j'étais, mais j'ai suivi ses conseils.
Ouais.
Et ça, il y a beaucoup de respect. Mais à côté de ça, aujourd'hui, moi, on parle de ça il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, vous avez un sélectionneur de l'équipe de France qui a redoré le blason de l'équipe de France. Et ça, on est tous d'accord et unanimes pour le dire. Mais ça fait 10 ans qu'il est là. Et en 10 ans, il n'y a pas que le sportif qui compte. Il y a aussi d'autres choses. Et les d'autres choses, c'est aussi mêlé à Noël Le Graët. Donc, c'est un peu dérangeant. Je pense que si demain, Noël Le Graët, et j'espère qu'il ne reviendra pas et que la plupart du COMEX aussi démissionnera, j'y crois à moyen, et que d'autres personnes arrivent à la tête, peut-être que Didier aura une relation, c'est sûr, il aura une relation différente avec le président de la Fédé, et que là, il aura des comptes à rendre aussi.
Et que ça ne se règle pas entre eux uniquement dans un coin. Je voudrais qu'on finisse, qu'on parle un tout petit peu du PSG, quand même, votre ancien club qui va affronter dans 10 jours le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Vous n'y croyez pas au PSG contre le Bayern
pas,
je sais pas, je dis ça,
mais
vous
moi,
avez
j'ai
dit
rien
ça
dit,
l'autre
toi,
jour.
Me confondez pas avec Daniel Riolo.
Non, mais vous redoutez ce match, vous êtes hyper inquiet et tout.
Non, mais pas du... Moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que, en fait, il y a quelque chose qui est...
le PSG, malheureusement, nous a habitués ces dernières années à prendre des claques à cette période.
Malheureusement.
Donc, mais on ne va pas ressasser le passé. Là, on est dans le présent. Il y a une équipe qui est en difficulté. Elle le montre collectivement déjà, avant de parler des individualités. Parce qu'en effet, s'il y a des blessés, c'est problématique de perdre ses meilleurs joueurs. Et là, on parle peut-être d'Mbappé forfait et puis d'autres peut-être qui vont arriver.
Et vous en êtes prêt à l'entraîneur, vous dites qu'il ne sait pas manager son trio de stars, à savoir Mbappé, Messi et Neymar.
Mais en fait, il ne sait pas le manager, du moins qu'il le mette sur le terrain au début, je pars du principe, et j'en ai parlé avec Christophe aussi dans
Galtier,
mon émission.
Ouais.
Avec Christophe Galtier, oui, pardon. Et c'est vrai qu'il me disait beaucoup de choses de bien,
ouais.
mais en cours de match, quand les mecs ne sont pas investis, tu es capable de les sortir, et ça, il a du mal à le faire.
Ouais.
Mais pour répondre à votre question,
on laisse gérer qu'on va, on va partir.
Je ne suis pas inquiet. C'est un fantastique huitième de finale de Ligue des Champions.
Vous attendez ça avec impatience.
J'espère que le PSG sur le match aller prendra une option, parce que c'est bien le but de recevoir une équipe et de prendre une option en perspective du match retour. J'y crois. Et comme tout supporter français, je pense qu'il faut parler en bien du Paris Saint-Germain sur les prochains jours.
Et on
y croit. Peut-être en mal des Allemands.
Ouais, on va essayer. Voilà. Merci Jérôme Rotel.
Voilà, merci à vous.
Je rappelle
qu'on
vous retrouve sur RMC toute la semaine du lundi au vendredi, 18h-20h. Rotel sans flamme avec toute votre équipe.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.